Vous serez le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour
Jean-Luc,
à tous.
Jean-Luc, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes là, très bien. Je fais l'appel.
Oui, c'est ça.
Bonjour
aussi, non?
Bonjour David.
Bonjour Stéphane.
Et bonjour Olivier Pouls.
Ouais, présent.
Et oui, vous êtes aussi avec nous pour nous raconter l'histoire de la gastronomie.
Absolument.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire, sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'ont pas vécu la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, Ciel, mon mari.
Qu'est-ce qu'il a, votre mari?
Non, pas le mien, le leur. On réunit trois dames qui se sont écriées Ciel, mon mari. Non pas parce que le roman était caché dans le placard, mais parce qu'ils étaient bien en mauvaise posture. Et ces dames, eh bien, elles ont sauvé leur bien-aimé. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par une grande figure, Lucie Aubrac, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a dû à plusieurs reprises venir secourir son mari Raymond, avec qui elle était engagée dans la résistance à l'occupation allemande, pour le faire évader du piège nazi. Puis, elle, à l'inverse, elle a sauvé son mari du peloton d'exécution alors qu'il était accusé de collaboration active avec l'occupant. Je vous raconte la danseuse et comédienne Nita Raya, qui a sauvé un certain Maurice Chevalier, son canotier et sa pomme aussi.
Ma pomme,
c'est moi. Je suis plus heureux qu'un roi.
Ah oui, ça, dès qu'on parle de son époque, les gentils,
ça s'appelle la nostalgie.
Mais oui, à la nostalgie quand elle nous tient. Après les mortes, la vivante. C'est vous, Jean-Luc Lemoine. Pas vous, la vivante, mais qui allez dresser le portrait de notre troisième dame du jour, qui a elle aussi sauvé son mari.
Oui, elle s'appelle Margot Dukes Eddy et elle s'est jetée à l'eau pour tenter de sauver son mari d'une attaque de requins.
Et alors, elle a réussi?
Vivante, on a dit vivante, Stéphanie Vanadis.
Ah oui, mais, oui, c'est vrai, donc elle est vivante. Ouais. Mais est-ce qu'elle a réussi à sauver son mari? Est-ce que lui est vivant?
Je ne vais pas tout vous révéler tout de suite, il va falloir patienter un petit peu. Mais dans une bonne heure, là, vous le saurez, ça s'appelle du teasing, ça.
Eux aussi, ils ont l'art du teasing, la preuve. Avec celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors, de qui allez-vous nous parler, Clémentine?
D'un personnage qui gagne à être connu, absolument extraordinaire, Kurt Gödel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais cet homme-là, c'était l'un
un
des
Allemand.
Plus... Autrichien, absolument. L'un des plus grands génies des maths du XXe siècle, grand copain d'Einstein. Il était à la fois absolument prodigieux et complètement paranoïaque. Et cet homme-là, message subliminal à mon mari, il était si dépendant de la cuisine de sa femme qu'il ne survécut que quelques semaines à la mort de celle-ci.
Uniquement sa cuisine.
Il a arrêté de manger. Vous allez voir, le bonhomme, il était fou et génial.
Alors lui, il remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David Kastlopsch.
Exactement, vraiment, vous prononcez mon nom parfaitement. Aujourd'hui, c'est les origines d'une méthode pour casser la gueule des gens qui est extrêmement efficace et qui s'appelle le MMA. Mixed Martial Arts, qui est devenu un des sports de combat les plus connus au monde et qui est d'une extrême violence. Et des fois, le soir, je me fais des petites compilations de chaos. Ça me fait plaisir et je vous en parlerai.
Très bien.
Stéphane, vous pratiquez pas l'octogone, vous?
Non.
Jamais?
Non.
Jamais, vous avez la bagarre?
J'adore,
c'est pas
regarder ça.
C'est vrai.
J'adore. Non, la boxe thaï, j'adore. J'aime bien regarder, je suis comme vous.
Oui. Voilà. Mais c'est parce que j'aime bien voir d'autres.
Oui, voilà, exactement. C'est ça.
Les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre. Mais aïe, quelle époque, mais aïe, quelle époque. Ça s'est passé dans le passé, c'est toujours présent. Aujourd'hui, direction la Grèce antique avec vous, Olivier.
Ouais, je vais vous parler de quelque chose que vous avez peut-être chez vous, le premier livre de cuisine de l'histoire. Ça date pas d'hier, évidemment. Il y a même un bout de recette qu'on a retrouvé dedans. Vous pourrez peut-être vous amuser à le faire. Ouais. Vous verrez que c'est pas d'hier. Hein.
Oui, et c'est consommable encore aujourd'hui.
Vous avez donc c'est assez succinct.
Oui, vous n'avez pas essayé de refaire cette recette?
On pourrait.
Eh bien, mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h45.
Mais avant, il y aura votre petite friandise, Stéphane.
C'est quoi ma friandise?
Votre tête-à-tête avec Clémentine, pour un jeu que vous adorez. Burn to be alive.
Oui, effectivement, merci de me le rappeler. Il paraît que vous avez préparé des questions historiques particulièrement tordues aujourd'hui.
Exactement, particulièrement, enfin comme tous les jours en fait. Oui.
Oh, j'ai hâte. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle est une grande figure de la résistance à l'occupation allemande et au régime de Vichy qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a œuvré avec Raymond, son mari. Un mari qu'elle a fait évader au nez et à la barbe des nazis. Je vous raconte maintenant la résistante qui a sauvé son bien-aimé, Lucie Aubrac. Nous sommes en 1943 à Lyon. Ce 21 octobre, vers 5h30 du matin, Lucie Aubrac et ses camarades de la résistance suivent en traction un camion de l'armée allemande dans lequel se trouvent 14 des leurs, 14 résistants, parmi lesquels Raymond, l'époux de Lucie. Les assaillants sont lourdement armés. Quant à Lucie, elle serre dans sa main un pistolet. « À nous !» dit-elle au conducteur de la traction qui accélère pour se mettre à la hauteur du camion. Un résistant tire sur le chauffeur allemand qui s'effondre. Le véhicule s'arrête net et les soldats nazis sautent à terre, armes à la main. Lucie et ses camarades, eux, ont déjà pris position derrière leur voiture. En 2 minutes, ils ouvrent le feu. Les chargeurs sont vides et les Allemands éliminés. En plein combat, à la lueur des phares des voitures, Lucie Aubrac voit son époux sauter du camion. « Attention, la gabardine, c'est Raymond !» crie-t-elle à ses camarades. Trop tard, son époux reçoit une balle de son propre camp dans la joue. Malgré cette blessure, l'évasion est un succès. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Lucie Aubrac sauve son mari des griffes de la Gestapo. Lucie Bernard, qui prendra le pseudonyme d'Aubrac, dont était affublé celui qu'elle a aimé, voit le jour en 1912 à Paris dans une famille modeste, originaire de Saône-et-Loire. Pendant la Première Guerre, son père, Louis, est appelé sous les drapeaux. Mais il est grièvement blessé et vite démobilisé. Le couple Bernard se fait embaucher au château du Plessis, à Blanzy. Louis comme jardinier, son épouse comme laitière. Lucie, elle, suit une autre voie. Élève brillante, travailleuse surtout, elle obtient à 26 ans l'agrégation d'histoire-géographie. Installée désormais à Paris, membre de la jeunesse communiste, Lucie est très appréciée de ses camarades, au point de tenir un temps les rênes de l'organisation dans le 13e arrondissement. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle est professeure à Strasbourg, où elle fait la connaissance de Raymond Samuel, futur Aubrac donc, un jeune ingénieur des ponts et chaussées issu de la bourgeoisie juive. Comme Lucie, il est militant communiste. Les deux jeunes gens s'aiment et finissent par se marier en décembre 1939. Raymond, qui effectue son service militaire dans les Vosges, est fait prisonnier par les Allemands avant d'être interné à Sarrebourg. Apprenant la nouvelle, sa jeune épouse organise son évasion. Lucie lui fait parvenir des comprimés qui, une fois ingurgités, devraient lui provoquer une forte fièvre. Et c'est réussi. Raymond est transporté à l'hôpital militaire où Lucie a fait le déplacement. La surveillance, plutôt légère, permet à la jeune femme de faire passer une tenue d'ouvrier à son époux qui l'enfile rapidement avant de se cacher jusqu'à la tombée de la nuit. À l'heure convenue, Raymond Aubrac escalade l'enceinte de l'établissement hospitalier tandis que Lucie, cigarette aux lèvres, détourne l'attention d'un garde en demandant du feu. L'histoire raconte aussi qu'elle flirte avec la sentinelle pour laisser à son mari le temps de s'échapper. Dès le lendemain, le couple prend le chemin de Lyon, situé en zone libre. Le régime de Vichy s'est installé, la collaboration s'impose violemment. Raymond et Lucie pourraient partir aux États-Unis se mettre à l'abri, mais ils refusent par patriotisme. À l'automne 1940, Lucie rencontre le journaliste Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui vient de créer un groupe qui distribue des tracts contre l'occupant nazi. Lucie et Raymond intègrent rapidement le noyau dur de ce qui devient alors le mouvement de résistance Libération Sud. Leur domicile lyonnais accueille des réunions clandestines. Lorsque le journal résistant Libération est lancé, précisons qu'il ne s'agit pas du journal que nous connaissons aujourd'hui, Lucie se charge de sa fabrication et de sa diffusion. Malgré un nourrisson à gérer, elle travaille la nuit et colle des tracts en ville. Elle opère aussi comme agent de liaison entre les mouvements Libération Sud et Libération Nord. Un emploi périlleux qui exige une mémoire infaillible en raison des changements d'identité régulièrement imposés. En cas d'arrestation, Lucie doit pouvoir restituer sans erreur tous les détails de sa fausse identité. Raymond, de son côté, se voit confier la direction des groupes paramilitaires qui se fondront dans l'armée secrète. Arrêté, en compagnie d'autres résistants, il réussit à faire croire aux policiers qu'il n'est pas résistant mais seulement trafiquant au marché noir. On l'envoie alors à la prison Saint-Paul à Lyon. Au culot, Lucie Aubrac se rend chez le procureur pour lui déclarer, je cite, qu'elle représente l'autorité du général de Gaulle. Elle ajoute que François Vallès, la fausse identité sous laquelle son mari a été arrêté, est un représentant du chef de la France libre. Lucie menace le procureur de mort s'il ne signe pas la remise en liberté de son époux. Et ça a marché. Dès le lendemain, Raymond Aubrac est libéré. Ne pouvant abandonner leur camarade en prison, le couple élabore un plan. Une dizaine de jours plus tard, un commando auquel Lucie et Raymond prennent part libère les résistants en se faisant passer pour des agents de la Gestapo. Mais le 21 juin 1943, la guerre est loin d'être terminée. Raymond Aubrac est une nouvelle fois arrêté, cette fois à Caluire, par le chef de la Gestapo lyonnaise, l'officier Klaus Barbie. Et avec lui Jean Moulin, chef du Conseil national de la Résistance, et une dizaine d'autres résistants. Elle craint le pire pour Raymond, désormais emprisonné. Alors, après avoir envoyé son fils de 2 ans chez des amis, Lucie demande à rencontrer Klaus Barbie. Lors de cette entrevue, elle se fait passer pour une jeune femme de bonne famille, Guylaine de Barbantane, enceinte des œuvres de son fiancé emprisonné à Montluc. C'est une semi-vérité puisque Lucie Aubrac attend réellement un deuxième enfant. Elle tente d'expliquer à Klaus Barbie qu'une personne de son milieu ne peut décemment pas accoucher sans être mariée, mais ce dernier les conduit sans même penser à vérifier son identité. Lucie Aubrac obtient finalement d'un autre officier allemand une rencontre avec Raymond à la prison pour célébrer, dit-elle, leur union. Lors de sa visite, Lucie réussit à lui donner un plan de sa future évasion. C'est à l'occasion d'un transfert, le 21 octobre 1943, qu'est organisée l'embuscade. Lucie Aubrac et ses compagnons attaquent boulevard des Hirondelles. Entre le siège de la Gestapo et la prison Montluc, un camion de l'armée allemande dans lequel se trouvent 14 résistants. L'escorte allemande est abattue pendant l'assaut. Le couple Aubrac est immédiatement emmené et caché avec leur fils jusqu'à ce qu'un avion vienne spécialement d'Angleterre pour assurer leur sauvetage. Il était temps. Quelques jours après leur arrivée au Royaume-Uni, Lucie accouche de son deuxième enfant, Catherine.
This is the BBC Home and Forces Programme. Here is the news and this is John Snaig reading it.
Pendant la guerre, Lucie intervient à plusieurs reprises à la BBC afin d'encourager le combat des femmes résistantes. Le 26 août 1944, c'est la consécration. Lucie Aubrac est invitée à défiler à Paris sur les Champs-Élysées aux côtés des membres du gouvernement provisoire de la République et de son chef, le général Charles de Gaulle, qui est aussi le parrain de sa fille. Se dresser contre le nazisme est un réflexe patriotique, répète-t-elle inlassablement aux collégiens et lycéens qu'elle rencontre pendant de longues années, presque jusqu'à sa mort en mars 2007, à l'âge de 94 ans. 4 ans plus tard, Raymond Aubrac retrouve sa courageuse épouse, qui lui avait sauvé la vie, non pas une, mais bien 3 fois.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Lucie Aubrac avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qui lui a consacré une passionnante biographie. Bonjour Laurent Douzou.
Bonjour Stéphane Bern.
Laurent Douzou, vous avez bien connu Lucie Aubrac. Vous l'avez rencontrée dans les années 80 alors que vous prépariez votre thèse d'État. Comment vous définiriez le caractère de cette femme qui a bravé tous les dangers pendant la guerre ?
Je crois que d'après ce que vous venez vous-même de raconter, je peux pas vous dire autre chose que c'était un caractère extrêmement fort, très intimidant de la rencontrer. Dites, je préparais ma thèse, j'avais 30 ans, elle en avait 72, elle avait un passé extraordinairement intense, donc la rencontre était intimidante, mais en même temps, c'était une femme qui était dans le privé comme elle était dans le public, parfaitement naturelle, et une fois qu'elle vous accordait sa confiance, ben, les choses étaient scellées. Et donc c'était à la fois intimidant et encourageant, parce que c'était quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'empiétait pas sur le domaine du chercheur. Elle ne me disait pas « il faut faire ci, il faut faire ça », alors qu'elle en avait sûrement très envie. Et j'étais toujours très très frappé par l'acuité de son intelligence, parce qu'on insiste toujours sur le fait que c'était une femme d'action, et c'était une femme d'action, mais c'était une femme d'une extraordinaire intelligence aussi.
Clémentine ?
Oui, pour comprendre le personnage et l'incroyable détermination qui semblait l'animer, il faut parler de ses années de jeunesse, parce que c'est une extraordinaire ascension, cette fille de jardinier qui échoue à l'école normale d'abord, mais qui ensuite se met à apprendre le latin pour pouvoir passer la grecque, qui obtient la grecque. C'est quand même une ascension, une volonté étonnante.
Vous avez raison, parce qu'en fait, quand on dit Lucie Aubrac, on pense à la Deuxième Guerre mondiale, au personnage public qu'elle est devenue, on a passe totalement sa jeunesse. Or, sa jeunesse est d'une extraordinaire difficulté. Ce qui est très frappant, c'est que dans tous les récits qu'elle a donnés, jamais elle n'a insisté là-dessus. Or, elle a vraiment connu des années d'une dureté exceptionnelle. Vous l'avez dit, son père rentre de la guerre, enfin, dès 1917, très gravement commotionné et handicapé. Et en réalité, sa sœur et elle seront pupilles de la nation. Et puis elle est d'un milieu extrêmement modeste, pour dire le moins. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'école primaire, elle passe le certificat d'études. Comme elle est assez brillante, on lui fait faire l'école primaire supérieure. Donc, elle a un brevet supérieur. Et puis, elle se destine, comme les gens de milieu modeste les plus doués, à devenir institutrice. Mais ses parents font le sacrifice de s'installer à Vitry-sur-Seine pour qu'elle puisse passer le concours d'une école normale d'institutrice très difficile, celle des Batignolles à Paris. Mais elle n'a pas le bagage. Donc elle tente le concours en 1929, en 1930, elle rate les deux fois, en 31 elle l'obtient. Et alors là on pourrait dire alléluia, ça y est, là elle a touché le Graal. Pas du tout, elle dit je n'entre pas finalement à cette école qui vient de m'accepter.
Elle ne voulait pas être interne, c'est ça.
Alors elle a dit qu'elle ne voulait pas être interne, je pense que c'était un caractère très très indépendant. Elle s'est dit que la discipline était trop stricte, donc elle n'a pas voulu. Et du coup qu'est-ce qu'elle fait? Ben, ses parents sont très mécontents parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices et elle va, elle, se prendre en charge. Travailler à la plonge en face du lycée collège Chaptal dans un restaurant et puis faire des vacations dans l'enseignement primaire en classe de maternelle et puis en même temps il faut comprendre qu'elle doit passer le baccalauréat. Elle n'a pas le baccalauréat, donc elle passe première, deuxième partie, puis elle s'inscrit en Sorbonne. Et vous l'avez dit, elle est très très brillante, mais elle n'a jamais fait de latin, elle n'est pas passée par le lycée, c'est pas une fille de la bourgeoisie, et donc elle doit apprendre le latin. Elle a un mal fou. Elle met 4 ans à obtenir le certificat d'histoire ancienne avec latin. Et l'année suivante, 1938, elle décroche l'agrégation du premier coup. Ça vous dit quoi? La détermination de cette femme. Alors, sa détermination et ses qualités, parce qu'il suffit pas d'être déterminé, c'est quelqu'un dont ses maîtres disaient qu'elle était exceptionnelle. Vous savez, quand en 1938 elle a l'agrégation, l'année suivante elle veut avoir une bourse pour partir faire une thèse sur l'histoire des États-Unis. Et elle demande des attestations. Et toute universitaire dans sa vie a rédigé des attestations. Et c'est un genre très codifié. Vous dites, mademoiselle Machin présente telle ou telle qualité, etc. Elle a obtenu telle note. Et elle s'adresse à un vieux professeur de la Sorbonne qui a pris sa retraite 2 ans plus tôt en 37, qui s'appelle Charles Guignebert. Et elle lui demande une attestation. Et il écrit une attestation comme je n'en ai jamais vu. Il faut voir que cet homme a 72 ans, il mourra à la fin de l'année, il est blanchi sous le harnais, il a une très longue expérience et il écrit ceci au recteur de l'Université de Paris, Gustave Roussy. Il s'agit d'une jeune fille d'esprit ouvert, avide de connaissances, jamais satisfaite de ce qu'elle a appris, d'intelligence pénétrante et précise, une cervelle bien faite et claire. Elle réussira tout ce qu'elle entreprendra dans l'ordre intellectuel parce qu'elle saura toujours nettement ce qu'elle veut et le voudra résolument. Et puis il ajoute ceci, je n'ai jamais rencontré d'étudiante qui s'impose à ses maîtres par son énergie l'ensemble de ses qualités à l'égal de celle-là. Oui, ça c'est intéressant parce qu'on est avant ce qui la rendra célèbre.
Exactement. Une spécialité de Lucie Aubrac pendant la résistance a effectivement été l'organisation des évasions. Elle a supervisé à 3 reprises celle de son époux Raymond, je l'ai raconté, mais aussi celle de plusieurs de ses camarades. Quelle qualité il lui a fallu pour monter des plans d'évasion aussi parfaits et aussi bien pensés?
Alors, il faut des qualités multiples. Il faut d'abord être très méthodique. Il faut repérer les lieux, il faut faire une surveillance très très précise des horaires, etc. Il faut aussi exercer un ascendant
sur son équipe, bien sûr, une
et
femme.
Le groupe France, c'est pas n'importe quoi, c'est l'élite armée de la résistance. C'est une petite escouade, c'est entre 5 et 10 hommes maximum. Or, ce qui est très frappant, c'est que cette jeune femme qui est enceinte au moment où elle fait évader son mari, enceinte de 5 mois, exerce sur ce groupe un ascendant mais qui est incroyable. C'est-à-dire qu'elle leur explique ce qu'il faut faire, et c'est loin d'être facile. Et ils marchent tous comme un seul homme. Et qui dirige le groupe France, c'est elle. Donc ça montre quoi? Que à la fois elle a les qualités intellectuelles pour monter une opération de cette complexité, mais elle a aussi des qualités de persuasion, de, on dirait aujourd'hui, de leadership, c'est-à-dire qu'elle s'impose aux gens, je dirais, sans même avoir besoin de le dire. Et j'ai vu après-guerre certains de ses camarades des groupes francs. Et c'était très très frappant parce qu'ils étaient en position de, comment dire, de subalterne en quelque sorte. Elle les traitait comme des égaux, mais eux avaient pour elle une admiration très très vive.
En fait, la principale action de Lucie Aubrac pendant la résistance était moins spectaculaire mais essentielle. Ça a été la diffusion du journal clandestin Libération. Qu'est-ce qu'on trouvait dans ces colonnes? Comment on se le procurait? Et qu'est-ce qu'il a apporté à la résistance?
Alors, le journal Libération, dont le premier numéro paraît en juillet 1941, comme toutes les feuilles clandestines, c'est la colonne vertébrale du mouvement. Le mouvement ne peut se développer que parce qu'il a une feuille clandestine qui essaime à peu près partout. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve toutes les informations que la censure tait. Alors au début c'est maigre, on trouve des informations sur les coulisses de Vichy, des choses comme ça, mais surtout sur par exemple le pillage de l'économie française par l'Allemagne, sur les brutalités commises par Vichy ou par les Allemands. Donc c'est au fond une sorte de canard enchaîné, c'est-à-dire que vous trouvez dans ces colonnes-là ce que vous trouvez pas dans la presse régulière, mais de surcroît une presse censurée de façon très étroite par le gouvernement de Vichy.
Clémentine?
Oui, à la fin des années 90, on a quand même insinué que les époux Aubrac auraient pu être les dénonciateurs de Jean Moulin lorsqu'il a été arrêté à Caluire le 21 juin 43. De quoi cette polémique a-t-elle été le symptôme et qu'est-ce qui a permis à un moment de remettre en cause le rôle magnifique des Aubrac dans cette histoire et des témoins?
C'est une question très complexe que vous posez. Là, je peux répondre que de façon assez lapidaire, mais grosso modo, il est parfaitement clair que les Aubrac n'ont en aucune manière été responsables de l'arrestation de Caluire. Simplement, Klaus Barbie, qui était le tortionnaire de Moulin, a été extradé de Bolivie, est venu en France, on lui a fait un procès. Son avocat Jacques Vergès a décidé que, puisque de toute façon la cause était entendue, son client serait condamné, on allait éclabousser la résistance. Et il y avait deux merveilleuses cibles qui étaient Lucie et Raymond Braque, parce qu'ils étaient à l'époque des personnages publics de premier rang. Et donc, on a monté un dossier qui s'appelle le testament, entre guillemets, de Klaus Barbie, qui a été diffusé après sa mort et qui les a gravement mis en cause. Ce que ça révèle, à mon avis, profondément, c'est petit à petit une mise à distance des témoins. C'est l'idée que le témoin, non seulement se trompe, mais que souvent il réécrit l'histoire à son avantage.
Jusqu'à la fin de sa vie, je l'ai raconté, Lucie Aubrac s'est rendue inlassablement dans les écoles pour témoigner. Quelle valeur elle a voulu transmettre à la jeune génération?
Alors vous avez raison, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Il faut savoir que dans les dernières années de sa vie, elle était quasiment aveugle et elle allait devant ses publics en faisant comme si elle y voyait parfaitement. Et vous voyez, cette espèce d'orgueil de cette femme qui voulait pas montrer un handicap. Et qu'est-ce qu'elle transmettait aux jeunes? Ben, pas une histoire glorieuse de la résistance, pas du tout. Elle se posait pas en héroïne. Elle les mettait toujours, eux, face à leur quotidien. Quand il lui disait « Vous avez fait des choses extraordinaires », elle disait « Non, j'ai fait ce que je devais faire, mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi ?» Alors elle disait, hein, par exemple, « Toi, tu es dans le métro, tu vois quelqu'un qui se fait agresser, tu réagis, tu fais quoi ?» Alors il balbutiait je ne sais quoi, elle lui disait « Bah voilà, tu dois faire comme moi, tu dois te lever, tu dois t'opposer à ce que tu vois. » Donc au fond, elle avait cette idée très courante, qu'on a beaucoup retenue ensuite, que résister est un verbe qui se conjugue toujours au présent.
Pour finir, Lucie Aubrac, comme son époux, n'est pas entré au Panthéon. Le couple mérite incontestablement sa place pour vous, Laurent Douzou.
Oui, enfin, je ne sais pas si Lucie Raymond Braque aurait rêvé d'être au Panthéon, ça, je ne sais pas du tout, mais il est clair que oui, ils auraient leur place au Panthéon de façon évidente. Non seulement à cause de ce qu'ils ont fait en tant que résistants, mais je dirais pour l'ensemble de leur carrière, si j'ose dire.
Et pour l'exemple aussi.
Et pour l'exemple qu'il représente. Et puis aussi, vous l'avez un peu dit, mais 70 ans de mariage, un couple comme on en voit très peu, c'est aussi admirable.
Vous avez raison. Ça va devenir de plus en plus rare.
Oui.
Et ça méritera presque des honneurs. Merci beaucoup, Laurent Douzou, de nous avoir raconté le destin de Lucie Aubrac et de son mari aussi, qui lui doit beaucoup, on l'a compris. Je rappelle que la biographie que vous lui avez consacrée est toujours disponible dans la collection Tempus aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Dans l'intimité de l'histoire.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre un point d'interrogation final à son quiz. À suivre, n'est-ce pas Jean-Luc?
Exactement, vous allez être content Stéphane aujourd'hui. Est-ce que vous y connaissez en teckel nain?
Ah oui, oui.
Ah, mais ça, c'est pas juste. Moi, j'y connais rien en chien.
Eh ben, ça tombe bien, parce qu'il n'y a aucune question là-dessus.
non, mais vous êtes un grand malade. Et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez un génie des mathématiques, un poil tourmenté qui, hélas, a très mal fini à cause de son épouse.
Oui, d'une certaine manière, oui. Kurt Friedrich Gödel, hein, ça devrait tous nous dire quelque chose. C'est un personnage extraordinaire. Il est né en 1906 dans ce qui était alors l'Autriche et aujourd'hui c'est la République tchèque. C'était un esprit extraordinairement précoce, brillant. Il s'intéressait à tout, ce jeune garçon. D'ailleurs, dans sa famille, on le surnommait Herr Warum ou Mr. Why parce qu'il passait littéralement sa journée entière à poser des questions sur et ça c'est quoi et comment ça marche. Vous aviez des petits surnoms dans vos familles, les deux garçons là, des surnoms affectueux, non?
Moi, on m'appelait Machin. Et parce que mes parents ne se souvenaient pas de mon prénom.
Moi, on m'appelait Calimero parce que je passais mon temps
à vous plaindre.
À chouiner.
Bon, donc rien à voir avec Mr. Why. Bon, et c'est un enfant un petit peu souffreteux. Hein. Il a sa prime jeunesse, il a des rhumatismes articulaires aigus, le pauvre. Il aura toute sa vie des problèmes cardiaques, mais au lycée en tout cas, et à l'université de Vienne, c'est un élève surdoué. Avant même d'avoir atteint la vingtaine, il échafaude et présente des théorèmes mathématiques révolutionnaires. En 29, il a 23 ans, il obtient son doctorat de maths à l'université de Vienne. Et il tombe amoureux. Et comme c'est un petit être un peu souffreteux et trop intello, et ben il tombe amoureux d'une femme plus mûre que lui et très sexy, Adèle Porkert, une danseuse qui a quand même 6 ans de plus que lui, et qui est divorcée. Donc évidemment, refus catégorique des parents Gödel. Ils veulent pas que leur fils Kurt fréquente une danseuse plus vieille que lui, et en plus divorcée. Et alors pour Kurt, c'est un vrai drame, parce qu'il est très très, très proche de sa maman, donc il veut pas se brouiller avec ses parents. Bon, alors il continue ses études universitaires, il publie en 1931 à 25 ans ses théorèmes d'incomplétude de Gödel.
Oula.
Alors, vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus. En tout cas, si l'on en croit les articles sur la question, ça vient littéralement bouleverser le monde des mathématiques et ça lui vaut la célébrité internationale, les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Par ailleurs, Gödel va contribuer à la théorie des fonctions récursives. Et alors là, c'est très très important dans l'avenir de l'informatique. Ne m'en demandez pas plus non plus. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que cet homme qui est absolument prodigieux sur le plan des maths est toujours entre génie et folie. Dans le milieu des années 30, il passe la plupart de son temps dans une maison de repos, qui est en fait d'ailleurs plus proche de l'asile de fous que de la maison de repos. Il est complètement borderline. Et puis, il passe son temps à voyager aux États-Unis et du coup, il est épuisé. Il finit par épouser son Adèle Porkert en 1938. Et 1938, en Autriche, c'est aussi l'année de...
L'Anschluss.
Exactement, l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Gödel est un scientifique en vue, il fait partie d'un groupe de scientifiques qu'on appelle le Cercle de Vienne, qui vont être aidés à fuir aux États-Unis et les Gödel vont donc à Princeton, dans le New Jersey. Et là, qui y a-t-il à Princeton à cette époque? Eh bien, Einstein. Et en fait, Gödel a déjà rencontré Einstein, ils se sont rencontrés en 1932, mais ils s'apprécient beaucoup. Ils deviennent amis. On les voit tous les jours à Princeton. Ils font ensemble le chemin jusqu'à leur bureau. Ils bavardent et ils bavardent en allemand. Parce qu'évidemment, là, ils sont aux États-Unis. Ils sont unis tous les deux à l'anglais. Mais enfin, c'est leur langue natale, l'allemand. Donc, on les voit qui déambulent tous les deux. Ils ont une relation très exclusive. Et d'ailleurs, Einstein est tellement attaché à Gödel que c'est lui qui l'accompagne à l'audience au cours de laquelle Gödel devient citoyen américain en 1947. Pourtant, ils ont des caractères complètement aux antipodes. Einstein aimait bien être entouré, il aimait rire, il était facétieux. Et Gödel, lui, était sérieux, solitaire, pessimiste. Et puis, c'était un homme vraiment très étrange. Son film préféré, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains. Et le plus grave, c'est que Gödel souffrait de délire de la persécution. Il était persuadé que les mathématiciens jaloux voulaient l'éliminer en l'empoisonnant. Et donc, son alimentation se composait essentiellement de beurre, d'aliments pour bébés et de laxatifs. Et encore.
De laxatifs.
Et oui, beurre, laxatif, aliments pour bébés. Et encore, il fallait que son épouse Adèle goûte tout avant lui. Il n'absorbait rien qui n'ait pas été goûté par Adèle. Alors, en plus, il fallait voir le bonhomme. Hein. Il avait tellement peur de tomber malade qu'il ne sortait jamais de chez lui sans un masque de ski sur le nez. Alors hélas, histoire tragique, oui ça nous a sauvés, mais enfin je pense que le masque de ski quand même, voyez à quoi ça ressemble, c'est pas exactement comme le petit masque en tissu que nous avons porté nous. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand Adèle a été hospitalisée à la fin 77, Gödel a complètement arrêté de manger. Il est devenu un squelette ambulant, il a été admis à l'hôpital de Princeton à la fin 77 et deux semaines plus tard, le 14 janvier 1978, il est mort de faim. Son certificat de décès indiquait qu'il était décédé en raison de la malnutrition et de l'inanition causée par des troubles de la personnalité. Il avait 71 ans à l'époque et pesait moins de 30 kilos.
Hein? Ah oui.
Voilà. Ça, c'est une histoire triste pour mari et épouse trop gros.
Merci Clémentine. Et à suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est le quiz Burn to be Alive.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Tel scapin, c'est ce que je me dis à quelques secondes de découvrir vos questions, Jean-Luc. Bon, là, maintenant, il ne s'agit plus de reculer. Allez, c'est parti, c'est l'heure du quiz, c'est Burn to be Alive.
Ne vous en faites pas, ça va très bien se passer, Stéphane. Alors, une question pour Stéphane. On va commencer ce quiz au XVIe siècle. À partir de 1589, c'est le siège de Paris. Il y avait évidemment une effroyable famine. Henri de Navarre, le futur roi Henri IV, finit par pénétrer la capitale en 1594. À cette époque, on a surnommé le pain de la Montpensier un pain fait avec du tissu bouillu. Ça se disait comme ça à l'époque. Un pain que vous imaginez quasiment immangeable. Est-ce vrai ou est-ce faux ?
Le non, pain de siège était fait avec de la sciure, me semble-t-il.
C'était de la sciure, c'était pas du tissu. C'était pas du tissu. Je crois pas.
En tout cas, le pain de siège de 1870, lui, était fait de façon certaine avec de la sciure, en effet. Un mélange de sciure et de farine. Mais je crois que le pain de siège de Henri IV, c'est pareil. C'est un très mauvais pain fait avec
des... Je pense pas qu'il y ait des tissus.
Non.
Je dirais non.
On vérifie.
Vous avez gagné.
Il est très fort. Le pain Montpensier était le pain fabriqué que les os des cadavres du cimetière,
ah bah oui,
des innocents
situés
dans le quartier des Halles.
Mais bien sûr, je l'ai raconté. Ah ben. Oui, mais moi je deviens gaga, j'ai quelques excuses. Hein.
Une fois mon les chevaux, les chiens, les chats mangés, ouais. Une rumeur invérifiable parlait de cette pratique appelée pain de la Montpensier. Cette dernière, selon les écrits de l'époque, vantait les mérites nutritifs de la recette sans toutefois l'avoir testée. Bon, bon appétit si vous êtes au goûter. Une question pour Clémentine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets britanniques ont réussi à mettre de la poudre à gratter sur 25 000 uniformes de la marine allemande. Vrai ou faux ?
C'est rigolo, ça. Qui aurait fait ça ? Les services secrets
britanniques.
Alors, comment aurait-il pu... alors, ils ne devaient pas accéder aux uniformes allemands. Alors, ça veut dire que ça aurait été fait... Et les uniformes allemands, il n'y avait pas de raison qu'ils soient sur le territoire français. Ça veut dire que les Britanniques auraient envoyé en Allemagne des parachutés de malheureux gars pour aller mettre du poil à gratter dans les... écoutez, franchement... Oh,
peut-être que ça s'est passé autrement. Hein. Là, c'est votre interprétation.
Je ne vois pas comment les Anglais auraient eu un lien avec la production de...
De tissus.
Parce que pendant la guerre de 14, par exemple, c'est les Allemands qui nous fournissaient de l'aniline pour teindre nos uniformes. Et ils ont cessé de le faire vu qu'on était en guerre. Donc, je ne vois pas comment...
Donc,
du poil à gratter, non.
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 On vérifie votre réponse.
Vous avez...
Incroyable histoire. Bah écoutez, j'accepte avec bonne grâce de perdre parce que je.
Et oui, ils ont fait ça en octobre 1943. La poudre a déclenché une épidémie massive de dermatite. Tout l'équipage d'un U-boat, c'est-à-dire un sous-marin, a dû rebrousser chemin et revenir au port pour se faire soigner. Alors, c'est-à-dire comment ça s'est passé ? En fait, les Anglais fournissaient la contrebande norvégienne. La résistance norvégienne s'affairait pour contaminer les uniformes, mais aussi des lits et même du papier toilette. Et là, je dis que ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin.
Ça irrite. Ah oui, non, c'est incroyable.
Une question pour Stéphane, maintenant. Une question qui va mêler l'histoire et la pédale. Entre 1946 et 1951, sur le Tour d'Italie, un coureur portait le maillot noir. ça voulait dire qu'il était le dernier au classement. Vrai ou faux ?
Alors, je suis pas très bon en cyclisme, hein, faut le savoir.
Alors qu'en foot,
on le sait.
Oui.
Bon, vous intéressez pas, hein ?
Non.
Vous aimez pas l'idée ?
Non, j'aime pas l'idée.
Oui, parce que ça serait vraiment stigmatisant. Ouais, le pauvre gars, ouais. Il est déjà dernier. En plus, on lui met un maillot noir comme le mouton noir. Non, ça a quelque chose de tout à fait contraire aux principes évangéliques.
Je dirais non.
Vous diriez non ? On vérifie.
Vous avez perdu.
Vous allez voir, l'histoire est folle. En fait, celui qui occupait la dernière place avait un maillot noir. Le problème, c'est que certains coureurs qui avaient abandonné tout espoir de remporter le Tour d'Italie essayaient de l'avoir coûte que coûte, ce maillot, pour au moins finir avec une décoration. Pour être dernier, certains se cachaient dans des granges, dans des bars, ou même se perçaient leurs propres roues. Mais il fallait pas qu'ils soient pris, parce que sinon, ils étaient éliminés.
Ah, parce que le fait d'avoir le maillot noir, ça permettait d'accéder à une forme de
quitte
visibilité
dans les derniers,
de notabilité.
Quitte à être dans les derniers, c'était un souvenir, ça, de toute façon. Et donc, ça devait être le maillot de la honte.
C'est pas bien ça, hein, Stéphane, hein, mettre un maillot noir, nous on n'est pas d'accord.
On va aller parler aux Italiens. Hein. Une question beaucoup plus légère. On va parler des Ceausescu.
Ah.
Vous aimez ça, les Ceausescu ? Clémentine.
Allez-y, posez votre question. Bah,
elle passait son temps dans les pays de l'Est. Hein,
c'est vrai. Mais c'est pas ça. En Roumanie, mais c'est vrai.
Donc, dans la famille Ceausescu, madame était assez taquine. Elena Ceausescu trouvait que la jeunesse manquait de dynamisme. Pour elle, les jeunes étaient trop gros. Du coup, elle a décidé, en plein chantier de construction du métro, de supprimer une station. Vrai ou faux ?
Elle a supprimé une station. Alors, elle a supprimé une station à l'extrémité d'une ligne de métro, si je comprends bien.
Entre deux. Elle peut avoir emmuré la station.
Elle était complètement timbrée. Elle est tout à fait capable de... Oui, bon. Non, elle a fait un truc plus marrant que ça, je pense.
C'est déjà bien rigolo.
Non, elle a dû faire un truc bien plus...
Vous êtes sûr ?
Terrible.
Vous êtes sûre, Clémentine ?
Et finalement, je ne suis pas sûre. Tout bien considéré, ma première intuition était sans doute la bonne. Donc oui, elle a supprimé une... Bien sûr, c'est bien connu.
Elle a supprimé... On va vérifier.
Vous avez... gagné !
Ah, voilà.
Mais qu'est-ce qu'elle est forte.
Elle est forte, Clémentine. Elle n'avait pas été aidée. Non, du tout.
Mais du tout, ça ne s'est pas vu.
Pas du tout, oh là là.
Non, c'est vrai. Les travaux étaient déjà bien avancés, c'était donc impossible. Les ingénieurs ont donc fait disparaître la station, mais que sur les plans. Ils ont continué à la construire, mais cachée derrière des murs. Et quand le métro a été terminé, les habitants de Bucarest ont protesté, évidemment. Et le couple Ceausescu a finalement donné son accord pour la station. Les murs ont été abattus et la station a été opérationnelle. Ce qui explique en tout cas encore aujourd'hui l'architecture très étrange de la station Piața Romania.
Ah, c'est étonnant. Mais vous savez que quand ils voulaient donner l'impression d'un pays opulent, on mettait des fruits et légumes en carton-pâte dans les étals. Je trouve que finalement, la station de métro supprimée, c'est pas aussi pittoresque ce qu'ils étaient capables de faire. C'est de fou, mais
c'était quand même bien tordu. Hein.
Oui.
Il va falloir une question pour vous départager.
Et vous avez tout fait pour.
Non, pas du tout, Stéphane. Pourquoi dites-vous ça ?
On voit bien votre petit jeu.
Alors, la question pour vous départager. Elio Gabal fut un empereur romain avec de l'humour.
Ah oui.
Il était connu pour piéger les convives de ses festins, vous savez quoi ? Avec un coussin pétor artisanal.
Oui, en peau de chèvre, non, en peau de bique.
Voilà. Est-ce que vous me voyez arriver avec ma question ? En quelle année la production industrielle de coussins péteurs a vu le jour ? Je sais que vous êtes un grand consommateur, Stéphane. Dès que vous allez chez les Macron, je sais que vous ramenez toujours votre
coussin. Je ne sais pas, non, il n'y a pas
moi,
ça.
Moi, je dirais 1893.
Alors, je vais vous donner un petit indice qui ne sert à rien, mais quand même.
Une échelle, quand même.
Non, mais le premier coussin péteur avait un nom, il s'appelle Whoopi.
Ah, si c'est Whoopi, ça doit être du caoutchouc, ça doit être contemporain de l'invention de la chambre à air, non ? Je dis 1856.
1856, d'un côté.
1895.
Et évidemment, j'ai tout fait pour le faire chuter, mais il ne tombe jamais. C'est un roc. C'est lui qui a gagné puisque c'était 1931.
1931
sur le catalogue Johnson Smith & Company.
Incroyable qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour avoir un coussin péteur. Non mais comment a-t-on fait ?
Un cousin, moi j'ai un cousin péteur mais c'est pas la même chose.
Il est écrit en toutes lettres sur le catalogue, pour vous donner envie d'acheter le Whoopi, il produit des bruits qui peuvent être mieux imaginés que décrits. C'est difficile de faire le
cousin Peter. Oui, ça tombe un peu à l'eau, là.
Oui, c'est ça.
Moi, je préfère le cousin Peter de Stéphane.
Et le cousin Peter, le premier, a été vendu par correspondance. Et ça, vous pourrez dire que vous l'avez appris dans Historiquement Vôtre.
Merci, Jean-Luc. Voilà, vous nous cultivez.
Vous serez le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement Vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Mais je ne suis évidemment pas seul, ils sont trois, ils sont avec moi. Jean-Luc Lemoine, David Castello-Lopez et notre guide culinaire vivant, et bon vivant d'ailleurs, Olivier Pouls. Et ceux qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun, et c'est bien pour cela qu'on les a réunis cet après-midi dans Historiquement Vôtre, nos trois personnages du jour, trois dames qui ont sauvé leur bien-aimé. Après la résistante Lucie Aubrac qui a sauvé son mari des griffes des nazis, je vous raconte Nita Raya, la jeune compagne du chanteur Maurice Chevalier qui l'a sauvé du peloton d'exécution alors qu'il était accusé d'avoir collaboré avec l'occupant. Quant à vous Jean-Luc Lemoine, vous allez nous raconter à votre manière, comme chaque jour, le vivant de l'étape. Une vivante aujourd'hui qui a sauvé son mari elle aussi, en plongeant.
Oui. Margot Dukes Eddy, c'est son nom. Elle a plongé effectivement quand elle a vu un requin attaquer son mari. Faut dire qu'elle a vite compris qu'il n'était pas très gentil le requin. Je vous raconte cette folle histoire tout à l'heure.
Ce sera juste avant 17h30 et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez, chers auditeurs, deux êtres qui eux sont vraiment gentils. Avec vous, Olivier Pouls, on remonte au temps de la Grèce antique pour découvrir le premier livre de l'histoire de la cuisine.
Ouais, vous avez un livre de cuisine chez vous?
Bien sûr, plusieurs même.
Plein? Vous vous en servez?
Non, mais j'aime bien les avoir.
C'est la déco, j'aime bien que les autres s'en servent.
Non, mais c'est au cas où, il y a une recette.
Ouais. Bah, vous allez voir qu'entre les livres de cuisine que vous avez là chez vous maintenant, et le premier, il s'est quand même passé un petit moment.
D'accord. Et David Castello-Lopez est là aussi pour nous raconter les origines du MMA.
Exactement, qui est une méthode très, très performante pour casser la gueule des gens. Oui. C'est très institutionnalisé.
Il y a des règles en même temps.
Il y a des règles.
Oui. Pas beaucoup.
Pas beaucoup. Vraiment moins que dans d'autres sports de combat. Et je vous dirais d'où vient ce sport qui est devenu le sport de combat un peu le plus célèbre et le plus cool du monde.
On pourra en faire.
Calmez-vous, Olivier. Je crois qu'il y a un trop plein de violence, Olivier.
Oui, c'est vrai. Je peux vous casser votre petite gueule de portugais? Très plaisir.
Je vois pas du tout l'intérêt de la radio, en plus.
C'est vrai. On peut faire semblant, et l'effet sera le même.
Rendez-vous donc en fin d'émission. Mais pour l'heure, je vous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. Historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle commence par danser, puis elle joue la comédie. Lui chante, joue, chante et connaît le succès, tant en France qu'aux États-Unis. Maurice Chevalier est une star. Elle, celle qui va venir chambouler sa vie. Et même la sauver aussi. Je vous raconte maintenant Nita Raya, la danseuse qui a sauvé son bien-aimé. Nous sommes en juin 1944, peu de temps après le débarquement des Alliés à Cadouin, un petit village de Dordogne. C'est ici, chez des amis à quelques kilomètres de la maison où ils ont fini par se retrancher durant la guerre pour se cacher de la Gestapo qu'ils avaient repérée, que Nita Raya, de confession juive, et son compagnon, un certain Maurice Chevalier, sont désormais installés. Car rester où ils étaient est devenu bien trop dangereux. Depuis ce jour où, dans le village de Mozac, une femme a annoncé à Maurice Chevalier que des hommes l'y attendent pour le fusiller. Il l'accuse d'avoir pactisé avec les nazis. Depuis, Nita Raya tremble pour la sécurité de celui qu'elle aime. Mais comment peut-on accuser le chanteur de 55 printemps, largement célèbre dans le monde entier, d'avoir collaboré alors qu'il la cache avec ses parents depuis le début de la guerre? Cette fois-ci, alors que Maurice Chevalier risque le peloton d'exécution, c'est elle qui va devoir lui sauver la vie. Nita Raya, de son vrai nom, Raïssa Belov-Djerkovitch, est née en octobre 1915 à Chisinau dans l'Empire russe. Ses parents émigrent en France alors qu'elle a 11 ans à peine. À Paris, son père Vladimir est chauffeur de taxi. Sa mère fait des ménages, quelques travaux de couture aussi. La famille est pauvre, mais heureuse de se retrouver le soir autour du bortsch traditionnel. En grandissant, Nita Raya rêve de devenir danseuse. Elle est très douée, mais une grave blessure l'oblige à s'orienter vers une autre activité. Elle choisit alors la comédie. Elle débute au cinéma à 16 ans dans « Olive se marie », un film de Maurice de Canonge, puis enchaîne les petits rôles jusqu'à ce qu'on lui propose d'intégrer le spectacle Broadway au Théâtre de la Madeleine. Un soir, après son passage sur scène, Maurice Chevalier, le chanteur français au célèbre canotier et séducteur invétéré, frappe à la porte de sa loge. Il a assisté à la représentation. Subjugué par les yeux noirs et les jambes interminables de Nita Raya, il est venu l'inviter à dîner chez Maxim's. La jeune femme refuse. S'il veut la revoir, il doit d'abord se présenter au 46 de la rue de Belleville. C'est là qu'habitent ses parents. Le lendemain, Nita est tirée de son sommeil par le bruit d'une conversation. Aussi fou que cela puisse paraître, sa mère discute dans le salon avec Maurice Chevalier, venu lui demander l'autorisation d'emmener sa fille déjeuner. Il l'amènera, mais pas uniquement là. Après un après-midi de pure félicité, Maurice Chevalier propose à Nita Raya, alors sous le charme, de l'accompagner à Londres. Désormais, ces deux-là passeront la majeure partie de leur temps libre ensemble, au point que rapidement, le chanteur demande la main de Nita à ses parents. Pour la jeune femme, elle a 20 ans et 27 ans de moins que lui, le changement de vie est radical. Les grands restaurants, les sorties s'enchaînent à Paris. L'été, le couple se rend à La Louque, la maison de villégiature que Maurice Chevalier possède à Cannes. Maurice est debout dès 7 heures du matin. Il réveille Nita, qui préférerait faire la grasse matinée. Ils font une partie de tennis, puis vient le déjeuner préparé par la cuisinière, suivi d'une sieste. L'après-midi, Maurice Chevalier fait venir son pianiste pour répéter ses chansons, puis travaille ses pas de danse. Après être parti à Hollywood, où il est devenu une star de la chanson et du cinéma, en tournant notamment sous la direction de Hans Lubitsch, Maurice Chevalier veut revenir sur scène en France. Pour Nita, les portes du cinéma s'ouvrent à son tour. Elle décroche un rôle dans « Au son des guitares » réalisé par Pierre-Jean Ducy, aux côtés de Tino Rossi. Puis elle perce véritablement dans ce qui sera le plus gros succès de l'année en 1937 avec Fernandel, Ignace.
Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents.
Plus charmante Ignace, encore, cette même année, Maurice Chevalier Ignace, propose à Nita Raya de se produire avec lui dans sa nouvelle revue, Paris en joie. S'il lui apprend à chanter, il se révèle surtout être un professeur très exigeant. Inlassablement, il lui fait répéter les mêmes mouvements de danse, parfois jusque tard dans la nuit. Le soir de la première au Casino de Paris, Nita Raya, couverte de plumes et de bijoux, attire tous les regards. De son côté, Maurice Chevalier fait un tabac avec une chanson qu'il ne voulait initialement pas chanter, face au réalisme de certains passages tout droit sortis de l'imagination de son auteur, un certain Charles Trenet, qui connaîtra avec cette même chanson un immense succès juste après. Ce soir-là, pourtant, il y a de la joie.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
Mais de la joie, il n'y en a plus beaucoup. Lorsqu'en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Malgré l'occupation, Maurice Chevalier continue épisodiquement à travailler. Il chante dans un camp de prisonniers en Allemagne, à plusieurs reprises sur Radio Paris ou lors de tournées en France, avant de rentrer définitivement à Cannes, rejoindre Nita Raya et ses parents qui y vivent reclus. Tous les trois sont juifs. Or, la Gestapo multiplie les rafles et eux sont repérés. Maurice Chevalier parvient à obtenir de faux papiers pour Nita et ses parents, ce qui leur sauve sans doute la vie. Après le débarquement, c'est l'euphorie. Pourtant, Maurice Chevalier et Nita Raya partent se réfugier en Dordogne chez des amis des chantes. Maurice est accusé d'avoir collaboré avec les nazis. Trois hommes armés de mitraillettes le retrouvent et l'amènent à Périgueux, où un chef de la résistance l'interroge. Combien de fois s'est-il rendu en Allemagne? Qu'est-il allé faire là-bas? Qui a-t-il rencontré? Si Maurice Chevalier est relâché, Nita Raya, elle, part retrouver celui qui peut sauver Chevalier, en acceptant de témoigner de son innocence. Il s'appelle René Laporte, c'est un résistant qui dirige la radio de Libération à Toulouse. Pendant la guerre, il a conseillé à son ami Maurice Chevalier de se tenir loin du micro de Radio Paris, devenu organe de propagande nazie, arguant que cela pourrait lui porter préjudice par la suite. Et ça n'a pas loupé. Dès le lendemain, Nita est de retour avec deux hommes armés et munis de papiers, précisant qu'ils conduisent un passager spécial dont l'identité ne doit pas être révélée. Ce passager spécial, c'est évidemment Maurice Chevalier, qui est escorté jusqu'à Toulouse. Là-bas, Maurice et Nita Raya ne sortent pas de l'appartement que René Laporte leur a trouvé et passent leur temps à écouter la radio. Une radio où chaque jour le speaker annonce l'arrestation de personnalités ayant collaboré avec l'occupant. Les artistes sont nombreux. Viviane Romance, Sacha Guitry, Arletty, Gaby Morlaix. Enfin, le comité d'épuration rend son verdict. Maurice Chevalier est totalement blanchi. Il y a de quoi se réjouir, pourtant, le chanteur s'inquiète. Après lui avoir sauvé la vie, Nitaraya semble s'éloigner. Pour son prochain spectacle, elle travaille avec un jeune compositeur talentueux, Francis Lopez, qui a aussi composé pour celui qu'elle aime. Un soir, rentré plus tôt, Maurice Chevalier trouve Francis au piano, Nita sur ses genoux. Le couple se sépare en 1946, mais reste en bons termes. Ils continuent à se voir, à dîner ensemble ou aller au spectacle. C'est finalement Joseph Axelrod, un industriel, que Nita épouse et avec qui elle a un enfant. Un divorce les sépare en 1954. La même année, Nitaraya joue son dernier rôle au cinéma dans « La rafle est pour ce soir » de Maurice de Cobra. Après le grand écran, elle revient à ce qui reste sa première grande passion, la danse, en devenant meneuse de revue aux Folies Bergères. Dans les années 60, Nitaraya, comme Maurice Chevalier avant elle, se met à chanter. Elle a presque 50 ans et se produit en première partie d'Édith Piaf, pour qui elle écrit « Je m'imagine » et « Toujours aimé ».
On n'a pas dans le cœur de quoi toujours aimer.
Peut-être en souvenir de Maurice Chevalier, le grand amour de sa vie, qui sait.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Nitaraya, nous sommes avec son petit-fils qui raconte sa folle vie dans un livre. Bonjour Grégoire Axelrod.
Bonjour Stéphane.
Grégoire, votre grand-mère Nitaraya est décédée en 2015 à l'âge canonique de 99 ans. Pendant plus de 10 ans, Nita a partagé la vie de Maurice Chevalier. C'était évidemment pas un secret. À quel moment de sa vie elle a commencé à tout vous raconter ?
Alors ma grand-mère était une personne très discrète. Et c'est vraiment dans les derniers jours de sa vie qu'elle m'a enfin tout raconté, parce que quand j'allais chez elle, je voyais très bien qu'il y avait des portraits de Maurice Chevalier, des tableaux de Maurice Chevalier, des statues de Maurice Chevalier. Bon, je voulais en savoir plus sur leur relation, mais c'est vrai qu'elle n'aimait pas vraiment en parler. Elle me disait, c'est le passé, ça intéresse pas la jeunesse.
Mais quel souvenir elle gardait de cette relation? Et comment est-ce qu'elle vous parlait de Maurice Chevalier lorsqu'elle a accepté enfin de le faire?
Elle a toujours eu beaucoup de respect pour Maurice. Et franchement, c'était le plus grand amour de sa vie. Malheureusement, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a quand même détruit leur relation, parce qu'il y avait tellement de stress et c'était bon, ils ont failli mourir tous les deux quand même. Donc c'est c'était très très grave. C'était des heures sombres. Mais voilà, Maurice, c'était l'amour de sa vie et je pense que c'était réciproque des deux côtés. Il a fait énormément pour elle et elle en sera toujours reconnaissante.
Vous expliquez dans le livre que vous lui consacrez, L'amour ou la mort, que pour Nitaraya, la guerre était un sujet tabou. Comment est-ce que vous avez réussi à la convaincre de vous raconter ce qu'elle avait vécu pendant ces heures sombres, justement?
En fait, comme elle a dû mentir pendant tant d'années parce qu'elle devait cacher son identité, et c'est quelque chose qui est quand même terrible et qui reste marqué pour elle, quand je lui posais des questions sur la Seconde Guerre mondiale, elle voulait pas spécialement en parler. Mais après, je lui ai demandé qu'elle me donne des photos d'elle pour que j'ai des souvenirs quand c'était la fin de sa vie. Et évidemment, je lui montrais les photos, je lui montrais les photos avec Maurice, des souvenirs qu'elle avait. Elle a commencé à m'en parler un peu plus. Mais c'est vrai que ça a été traumatisant pour elle et comme des millions de personnes qui ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, c'est ma famille, c'est ma grand-mère, c'était quelqu'un de très important, c'était ma meilleure amie pour moi. Et donc, elle me raconte tout. C'était extraordinaire parce que ils ont vécu des moments si forts que on a besoin d'avoir cette expérience, même pour nous, pour s'en rappeler et puis pour transmettre aussi aux autres générations.
Mmh. Pendant la guerre, Nitaraya a donc sauvé Maurice Chevalier. Elle, mais aussi celui dont j'ai parlé dans le récit, René Laporte. Ses propos ont suffi à disculper Maurice Chevalier?
Alors, l'écrivain René Laporte était un ami de Maurice depuis 1943 et c'était quelqu'un d'extrêmement influent dans la résistance. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est Pierre Dac sur Radio Londres qui a parlé de Maurice comme si c'était un collabo, ce qui est inacceptable. Franchement, c'est un scandale ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est vrai que Maurice était parti chanter en Allemagne parce qu'il voulait libérer son neveu. Les Allemands l'avaient quasiment obligé de venir chanter sur Radio Paris. C'était quasiment tous les jours qu'il lui disait qu'il devait chanter à Paris ou en Allemagne. Et lui, il avait accepté en disant « J'accepte, mais aucune promotion. Et en échange, je veux qu'on libère 10 prisonniers français y compris mon neveu. Et j'irai chanter en Allemagne, dans le camp de prisonniers dont j'avais été pendant la Première Guerre mondiale. Donc il a chanté. Il y a eu les 10 prisonniers qui ont été libérés, mais pas son neveu. Et évidemment, les Allemands ont fait leur communication dessus. Et ça a été très, très négatif pour Maurice, parce que Maurice n'était pas quelqu'un qui était dans la politique du tout. Ça ne l'intéressait pas. Mais malheureusement, il était un peu naïf dessus. Et les Allemands, ils ont fait une promotion sur lui, parce que c'était une des plus grandes vedettes françaises. Et après, il a été traité de collabo, alors qu'il cachait des Juifs chez lui. Mais il ne pouvait pas dire la vérité, il ne pouvait pas dire dans les médias qu'il avait ma grand-mère et ses parents chez lui. Donc c'était terrible, parce qu'être traité de collabo quand tu caches des Juifs chez toi, je veux dire, il n'y a pas pire. Hein.
C'est terriblement injuste. Et René Laporte a fini par parler pour disculper Maurice Chevalier, pour disculper son ami.
Voilà, donc René Laporte avait déjà conseillé à Maurice dès 1943 de ne plus chanter sur Radio Paris. Et après, il avait contacté Pierre Dac en lui disant qu'il se trompait et que Maurice n'était pas du tout un collabo. René Laporte, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir dans la résistance. Donc quand il contactait une personne, voilà, il était écouté et ça suffit plus tard pour libérer Maurice. Mais c'est parce que ma grand-mère est allée à Toulouse parler à René Laporte quand la résistance est venue chercher Maurice pour l'emmener à Périgueux pour un interrogatoire et après pour le fusiller. Ça, c'était clairement le programme que René Laporte a pu envoyer deux personnes pour venir chercher Maurice le plus vite possible avant qu'il y ait le jugement final le lendemain.
Grégoire Excelrod, après la guerre, Maurice Chevalier et Nitaraya se sont séparés. Je l'ai raconté, mais sa carrière, elle, a continué. Elle a pu prouver qu'elle pouvait être une véritable artiste sur scène, en tout cas plus qu'au cinéma.
Ma grand-mère, elle a fait du cinéma un petit peu grâce à Maurice Chevalier, hein, parce que quand on est avec lui, évidemment, ça ouvre beaucoup de portes. Et après, elle, c'était vraiment une artiste dans l'âme. Même la fin de leur relation, je lui disais, mais comment tu as pu quitter Maurice Chevalier? Je veux dire, il n'y a que toi sur Terre qui peut quitter Maurice. C'est incroyable ce que tu as fait. Mais elle était comme ça. C'était quelqu'un de libre, artiste, qui voulait continuer sa carrière. Elle adorait faire le show, donc tant mieux. Elle a continué jusqu'à tard, hein, jusqu'à ses 50 ans.
Mais Nitaraya a notamment partagé la scène avec Edith Piaf. Elle a même écrit des chansons pour elle. Au-delà de Piaf et de Maurice Chevalier, quelles sont les hautes personnalités dont vous avez retrouvé les noms qu'elle a côtoyés?
Alors, il y en a eu énormément, surtout aux États-Unis. Il y a eu Walt Disney. Il y a eu, en France, il y a eu Colette. Après, ma grand-mère me disait qu'elle avait dîné avec à l'époque, des présidents de la République française. Et je lui dis alors, c'était comment? C'était impressionnant? Elle me dit non, pas du tout. Parce que quand on est dans l'intimité de ces couples-là, elle disait parfois la femme du président d'époque lui faisait un scandale devant tout le monde et lui ne disait rien, il n'avait aucune personnalité. Alors que quand il était à l'époque dans les médias, dans la radio, il passait pour quelqu'un de très fort, etc. Donc elle m'a dit, la vie c'est souvent un jeu et même les hommes politiques, c'est souvent... voilà, pour elle c'était drôle. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces expériences de ces personnes qui ont connu ces moments-là, parce que même pour moi, ça m'a aidé, même dans ma vie, à mieux comprendre le monde.
Merci beaucoup, Grégoire Excelrod, de nous avoir raconté Nitaraya, le grand amour de Maurice Chevalier, et votre grand-mère surtout. Je rappelle que votre livre, L'amour ou la mort, est disponible aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, sont réunis trois dames qui ont sauvé leur bien-aimé. Après Lucie Aubrac et Nitaraya, vous nous racontez, Jean-Luc, une Américaine bien vivante qui a plongé dans la mer pour sauver son mari et il n'était pas seul.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler couple, Stéphane. Et d'amour aussi, car les deux ne vont pas toujours ensemble, vous le savez.
Donc, qu'est-ce que j'en sais?
Vous le savez parce que vous connaissez la vie.
Ah, d'accord.
Je parle pas de votre situation personnelle. Il est paranoïaque,
celui-là. Oui, c'est ça, ça fait vraiment attaque personnelle. Oui,
c'est pas du tout.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Vous le savez parce qu'on le sait tous. Oui, voilà. Simplement. Voilà. Bon. En tout cas, il y a des gens pour qui le couple, c'est compliqué. Madame Bricolage disait de son conjoint, mon mari n'est qu'un petit étron. Vendre des tondeuses, des pots de peinture, des serre-joints, c'était mon idée. On peut dire sans trop s'avancer que contrairement à Lucie Aubrac, elle aurait certainement hésité à sauver son homme. Elle aurait plutôt essayé de l'aplatir avec un rouleau au gazon. Ou peut-être pire encore, je sais pas. Mais passons.
Non, c'est horrible.
Oh, c'est la vie, vous savez, David. Mais passons, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Margot Dukes Eddy. Et comme c'est assez difficile à prononcer, je vais plutôt vous parler de Margot. Une femme exceptionnelle qui, en 2020, a risqué sa vie pour son mari. Donc, direction Atlanta. Petit point TripAdvisor, figurez-vous qu'Atlanta est la ville idéale pour perdre son enfant dans un aéroport, car son terminal est aussi grand que 45 terrains de foot.
Karim, 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 je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça.
Est-ce qu'on souhaite à Karim de retrouver son père? Pas vraiment. Donc Margot habite Atlanta. Elle a 27 ans, elle est blonde, elle ressemble un peu à Audrey Crespo-Mara.
C'est ridicule, franchement.
Ah bon, bon je trouvais, moi. Margot aime avoir les cheveux longs et boire du champagne. Du moins, c'est ce que j'en ai conclu en regardant son Instagram. En 2017, elle épouse Andrew. Lui aussi est blond et il ressemble à Cyril Ferraud.
Voilà, allez bien vous faire foutre.
Bon bah ça va, je suis pas physionomiste, mais on peut rester courtois. Surtout qu'il est pas mal, Andrew. Hein. Lui, il aime la pêche, la truite et la bière. Et il dirige une boîte d'informatique, car quand il était petit, il adorait les chansons de Dorothée.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur.
Nous sommes donc le 20 septembre 2020. Margot est enceinte de 7 mois, et à cette période de l'année où les bouées sont dégonflées, sauf pour certains qui ont abusé du houmous pendant l'été, le couple décide de prendre quelques jours de vacances avec la mère de Margot, sa sœur et le fiancé de cette dernière. Ils partent en Floride, et plus précisément à Sombrero Beach. Une plage réputée pour ses fonds marins et ses sombreros. Enfin, j'imagine. À peine arrivé, il décide de faire une virée en bateau. Oui, ça, c'est une virée qui s'annonce plutôt mal.
Oui.
Mais comme ils n'entendent pas notre bande-son, ils se méfient pas. Donc Andrew enfile son masque, ses palmes et son tuba. Il veut faire du snorkeling pour admirer les coquillages et les poissons multicolores. Alors que Margot admire au loin la petite tige d'Andrew qui sort de l'eau.
Pardon.
Non, je parle du tuba, Stéphane. Et d'un seul coup, elle aperçoit... À votre avis, qu'aperçoit-elle? Plusieurs propositions. 1. Une morue. 2. William Lémergie qui fait du paddle. 3. Un requin.
Bah, c'est-à-dire, en même temps, vous nous avez raconté que
oui.
Elle va sauver son mari d'un requin. Donc
oui,
c'est
mais
un
j'ai
requin.
Envie de dire William Lémergie qui fait du paddle.
Voilà, parce que le requin, c'est plus tard.
Voilà. Et non, c'était bien un requin. Vous êtes formidablement perspicace. Je sais pas ce qui vous a mis sur la piste.
Votre lancement tout à l'heure dans l'émission.
Et la musique peut-être aussi.
Ah oui.
Elle voit l'aileron du requin et juste après, du sang dans l'eau. Oui, très mauvais combo. Je vous rappelle que sur le bateau, il y a sa mère, sa sœur et le mec de sa sœur. Et que Margot est enceinte jusqu'aux dents. Bah, il n'y en a pas un qui bouge. Visiblement, Andrew, il n'a pas trop la cote dans la belle famille. À mon avis, à Noël, chaque année, on lui offre une valise. Oh, c'est gentil, il fallait pas, mais pourquoi? Bah, pour que lui dégage. Donc la belle famille reste à se prendre en selfie sur le ponton du bateau, et c'est Margot qui s'y colle. Margot réajuste son maillot de bain rouge spécial grossesse, et elle s'échoue dans l'eau. Car elle essaie de plonger avec grâce quand t'es enceinte de 7 mois. La brasse étant en plus déconseillée dans son état, on imagine qu'elle a dû partir en dos crawlé, donc en zigzag, avec de l'eau plein les yeux. Et malgré cela, elle arrive jusqu'à Andrew, l'attrape et le ramène à bord à la manière certainement d'une petite loutre qui pose ses affaires sur son ventre.
Oh oui.
Oh oui. Le tout en échappant à un requin de 3 mètres de long, c'est absolument incroyable. La famille, qui se sent un peu mal à l'aise de ne pas avoir levé le petit doigt, appelle quand même de l'aide.
Navarro, j'écoute.
Bon, dans le genre, mais aux États-Unis. Eux, ils vont avoir affaire au chef Ramsey, qui va les féliciter pour avoir pratiqué les premiers secours. Normal, ils avaient trouvé juste avant un tuto.
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne venant de se faire une entorse.
Bon, c'était un peu hors sujet, mais en même temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, car ça n'existe pas, porter secours à quelqu'un qui vient de se faire bouffer l'épaule par un requin. Andrew, qui a une plaie profonde à l'épaule, est transporté par avion au Ryder Trauma Center de Miami, où il est recousu. On peut clairement dire qu'il est... Ça s'est fait comme ça. Ce sont des documents d'origine, évidemment. En tout cas, on peut clairement dire qu'il a eu de la chance, Andrew, d'avoir une femme comme Margot. Tout s'est bien terminé pour nos amoureux, et le jeune papa a pu éviter de changer les couches de sa fille pendant plusieurs mois, grâce à son bras en écharpe. Vous vous rendez compte? Grâce à sa femme, il a survécu à une attaque de requin. C'est horrible, hein? Mais avec les dents de la mer, ça donne un côté hollywoodien. En France, on fait moins rêver. Dans le bassin d'Arcachon, il y a un phoque qui a attaqué des touristes. Bon, là, c'était un bibifoque vénère. Hein. Stéphane, ouais. Vous saviez qu'il y avait un phoque dans le bassin d'Arcachon?
Non.
Non?
Non.
Et en plus, un phoque acariâtre. Enfin, c'est ce qu'on croyait. En fait, il était en période de reproduction. Il a confondu les surfeurs avec des phoques en chaleur.
Ça fait mal.
Ouais, 200 kilos d'amour sur le dos, ça doit faire drôlement mal. Hein. Surtout quand t'as passé 3 mois de faire un summer body et qu'au final, pour un phoque bigleux, tu ressembles vraiment à une congénère. Moi, c'est décidé, après toutes ces histoires, l'année prochaine, ça sera vacances à la campagne.
Mais vous avez bien raison, c'est ce que je fais. Merci beaucoup Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos dames qui ont sauvé leur bien-aimé pour retrouver deux bien-aimés que leur femme n'hésiterait pas à sauver. Enfin, je l'espère pour eux. David Castello-Lopez, vous nous parlez des origines du MMA.
Exactement.
Avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque. Aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. Mmh. On remonte au temps de la Grèce antique cet après-midi. On va découvrir avec vous, Olivier, le tout premier livre de cuisine de l'histoire.
Ah oui, alors je suis certain que tous autant que vous êtes ici autour de cette table, vous avez forcément des livres de cuisine chez vous, peut-être dans votre cuisine. Quel est votre préféré ? Tiens, il y en a un qui...
Les sœurs cuillères, là, vous savez ?
Ah...
Les sœurs cuillères. Non,
moi, je que sais pas.
J'ai un livre qui s'appelle 50 recettes pour des sauces.
Ah, c'est pas mal. Ouais, moi, j'ai tous les simplissimes aussi.
Ah, voilà. Ouais. Ouais.
Moi, j'ai un best-of de cake. Voilà, les meilleurs cakes.
Et puis, j'ai tous les grands cuisiniers qui m'ont dédicacé leur livre de cuisine.
Mais vous ne ferez jamais les recettes, mais ça, c'est pas grave. Alors, moi, je vous parle.
C'est trop intimidant. C'est beau à regarder.
C'est pas facile. Mais vous allez voir que, bon, avant d'en arriver là, il y a eu tout un process parce que je vous parle aujourd'hui du tout premier livre de cuisine ou de recette, si l'on peut dire, qui était très éloigné de ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors, son auteur est un certain Archestrate, poète, voyageur et grand amateur de gastronomie. Il vivait au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et vous allez le voir, il était pour le moins productif, puisqu'on lui attribue plus de 1000 textes poétiques sur la gastronomie. Alors, hélas, seuls quelques extraits nous sont parvenus aujourd'hui, 56 exactement, qui ont été traduits. Il ne s'agit pas, malheureusement, de recettes précises. Il traite plutôt de conventions sociales à table, de l'art de la gastronomie ou des habitudes de l'époque. Il préconisait ainsi, par exemple, qu'on ne soit pas plus de 4 ou 5 à table pour pouvoir vraiment savourer les plats au mieux. Il n'est pas tort. Et à la même époque, un certain Mythékos de Syracuse. Ça s'impose comme nom quand même.
Mythékos de Syracuse. Ça sonne quand même comme une mycose.
Je
connaissais Mykonos.
Mythékos de Syracuse. Lui, c'était un cuisinier originaire de Sicile et il a rédigé un livre qui contient des recettes, le fameux premier livre de recettes, Art culinaire.
De quelles recettes s'agit-il d'une part et est-ce qu'on peut nous-mêmes les refaire?
Alors, une seule, malheureusement, nous est parvenue. Ah oui. Elle tient une ligne, ce qui explique comment préparer du poisson. Alors prenez note, hein, les amis. Vider, jeter la tête, laver, couper en tranches, ajouter du fromage et de l'huile d'olive.
Oui,
bon, c'est pour le moins succinct, mais ça donne une petite indication de ce qu'on pouvait manger à l'époque, parce que la présence de fromage dans cette recette, dans ce plat, qui paraît presque un peu incongru, eh bien, elle serait typique de la cuisine de Syracuse. Mmh. Mais alors, si vous voulez un livre de cuisine un peu plus complet, je vous suggère alors de vous pencher sur le De Re Coquinaria, livre romain rédigé, lui, au 4e siècle et inspiré par un certain Apicius, un Romain bon vivant qui dépensait des fortunes en nourriture, un peu comme moi.
Et là, on peut vraiment trouver des recettes, Olivier.
Oui, 468 recettes recensées en 10 tomes. Le garum, qui est une sauce à base de poisson fermenté. Ah. Les charcuteries, déjà à l'époque. Des plats à base de vin, de volaille ou de poisson. Ils sont classés et donnent lieu à des explications qu'il n'est pas toujours facile de comprendre, parce que même si la version est traduite, la manière de les écrire ou de les décrire, évidemment, est un peu particulière. On y découvre en revanche que les Romains mangeaient de la viande bien cuite, le cru était synonyme de barbarie et de pauvreté, que les sauces étaient aigres-douces et qu'ils utilisaient beaucoup d'herbes aromatiques. Alors à l'époque, on ne rédigeait pas, je vous l'ai dit, de livres de recettes comme aujourd'hui, liste des ingrédients, grammage, déroulé, temps de cuisson, mais plutôt des textes très vagues. Il faut en réalité attendre le 19e et même le 20e siècle pour voir apparaître les livres de cuisine tels que nous les connaissons. Même les célèbres ouvrages que furent l'Escoffier, le cuisinier François de Pierre-François de la Varenne ou les écrits de Menon manquent cruellement de précision. Fort heureusement, aujourd'hui, les livres sont précis, simplissimes parfois et vous permettent vraiment de réaliser les recettes.
Merci beaucoup, Olivier.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Olivier Pouls, et surtout avec vous, David Castello-Lopez, les origines du MMA.
Mixed Martial Arts. Je l'ai déjà dit quelques fois ici, quand j'étais au collège, j'étais dans la catégorie de ceux qu'on appelle aujourd'hui les bolos, hein, et qu'on appelait de mon temps les bouffons. Mm. J'étais un bolos parce que c'était la sentence définitive du chef des gens cool de ma classe qui s'appelait Yann Abenaïm et qui avait dit que j'étais un bouffon et donc j'étais un bouffon. Et c'est un tout petit peu difficile, même avec le recul, de déterminer exactement pourquoi
j'étais un bouffon.
Peut-être, au revoir, j'espère que lui a raté sa vie.
Peut-être que je souriais trop, ce qui me donnait l'air un peu bête et non pas mystérieux comme les garçons qui faisaient la gueule. Peut-être que j'étais pas très fort en sport, à part en natation, mais tout le monde s'en fout de la natation, l'important c'est le foot. Mais peut-être que surtout, je ne savais pas me battre. Ah. Et ça aurait pu me sauver complètement de savoir me battre, parce que le collège, c'est ce qui se rapproche le plus chez les humains de l'expérience de la meute. Et donc au collège, si vous cassez la gueule à la bonne personne, vous obtenez le respect et la considération qu'on doit au mal dominant. Mais moi, j'avais tiré le mauvais numéro à la loterie des muscles, et donc c'était pas une option de casser la gueule aux gens. Et aujourd'hui encore, je pense que je suis pas complètement remis de cette époque, parce que je continue à être fasciné par les gens qui savent se battre. Et quelquefois, tard le soir, à mon bureau, au lieu d'écrire mes chroniques pour Europe 1, je regarde des compilations de gens qui se battent. Soit qui se battent dans la rue, soit plus souvent encore dans une arène de MMA. Alors, MMA, je vous ai dit ce que ça voulait dire, vous vous en souvenez ?
Mixed martial arts,
arts martiaux mixtes, combinaison d'arts martiaux. C'est un sport de combat qui comprend tous les autres sports de combat, si vous voulez, et qui se rapproche. C'est ce qui se rapproche le plus d'un combat sans règles. C'est-à-dire, c'est un peu un combat de rue, mais institutionnalisé.
On peut taper toutes les.
Alors il y a quelques règles. L'idée, c'est qu'il y a deux personnes qui se mettent sur la gueule dans un ring en forme d'octogone avec des filets sur les côtés, un peu comme dans une cage. Il y a quand même quelques règles, effectivement, puisque on n'a pas le droit de frapper dans les yeux, ni dans les parties génitales. On peut pas mordre son adversaire, ni lui cracher dessus. On peut pas insérer ses doigts dans les orifices de son adversaire, ni dans des éventuelles plaies qui se seraient formées au cours du combat. On peut pas lui donner des coups de genou dans la tête quand il est au sol. On n'a pas le droit non plus de lui tirer les cheveux.
On peut rien faire, quoi.
Mais à part ça, en gros, on fait ce qu'on veut. Et ça donne des matchs d'une violence qui, jusqu'à l'apparition du MMA, n'existait pas dans le sport. Aujourd'hui, le MMA, c'est sans doute le sport de combat le plus populaire au monde. Et pourtant, c'est récent. Les racines du MMA, elles se trouvent dans la plus grande ex-colonie de mon second pays, le Portugal. Cette ex-colonie, c'est le Brésil. Il y a une famille célèbre dans les arts martiaux brésiliens qui s'appelle les Gracie, et qui, dans les années 20 du 20e siècle, il y a 100 ans donc, ils ont inventé un art martial nouveau, dérivé des techniques japonaises, qui sont appelées le Jiu-Jitsu Gracie, de leur nom de famille, mais qu'on appelle aujourd'hui plus volontiers le Jiu-Jitsu brésilien. C'était un art martial fondé sur l'immobilisation de l'adversaire au sol, vous voyez, avec des clés de bras, des étranglements, tout ça. Et à partir du moment où ils ont créé leur technique, les Gracie, ils ont développé des combats informels dans les gymnases qu'ils dirigeaient ou dans des garages, combats qu'ils appelaient les Valtudo. Valtudo, en portugais, ça veut dire tout simplement tous les coups sont permis. Mais le but de ces Valtudos, c'était surtout de démontrer la supériorité de leur technique de jujitsu face à toutes les autres techniques de combat. 70 ans plus tard, au début des années 90, le fils de l'un des fondateurs de la dynastie, fils qui s'appelait Roron Gracie, il a voulu institutionnaliser ces matchs de Valtudo, et c'est pour ça qu'en 1993, il a créé aux États-Unis avec deux autres gars l'Ultimate Fighting Championship, abrégé en UFC. Le premier match d'UFC à Denver, dans le Colorado, c'était donc en 1993, il a été assez horrible. Il y a un karatéka néerlandais qui s'appelait Gérard Gordo qui a donné un coup de pied dans le visage d'un ex-sumo, et il a tapé tellement fort que les dents du sumo sont restées plantées dans son pied. C'est assez affreux. Cette extrême violence, elle a fait que le MMA a été rapidement interdit, non seulement dans la plupart des États américains, mais aussi dans beaucoup de pays. Mais il y a certaines personnes qui l'ont défendu très très fort, et en particulier Donald Trump. Non. Donald Trump, ça a été vraiment un parrain du MMA. Il a dit d'ailleurs dans une interview à une époque, « The MMA, it's the place to be ». Il a organisé aussi des matchs dans ses hôtels. Au début des années 2000, il y a certaines des règles dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont été ajoutées pour rendre le sport plus acceptable. Et petit à petit, le monde s'y est fait. Même la France, qui pendant des années et des années a été un des derniers pays dans lequel le MMA était interdit, elle a fini par l'autoriser en février 2020. Et en 2022, en septembre de cette année, elle a accueilli même un événement majeur du MMA à Bercy. Et c'est un Français qui a gagné, qui s'appelle Cyril Gann, qui a bien pété la gueule de son adversaire. Quant à moi, j'ai toujours pas appris à me battre, mais il y a une fois dans ma vie où j'ai trouvé le courage de mettre mon poing dans la gueule de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Yann Abenaïm. En 1994, dans un couloir du collège Condorcet, le chef des coules m'a dit un mot de trop et je lui ai envoyé mon poing dans la gueule. Ça a cassé son appareil. Et à partir de ce moment-là, alors ça m'a pas rendu complètement cool, mais au moins, ça m'a donné un petit peu de l'aura du mâle dominant et j'ai été un petit peu plus respecté à partir de ce moment-là. Et depuis, je n'ai foutu mon poing dans la gueule à personne parce que je n'ai pas le courage.
Parce que vous avez compris le message quand même. Il veut donner un poing dans la gueule du mâle dominant. Et qui c'est le mâle dominant de l'émission?
Il n'y a pas de mâle dominant dans l'émission.
C'est complètement Stéphane Bern.
Mais non, pas ça. Ah, ça s'entend, oui, vraiment, le mâle dominant. Merci,
il
David.
Il a des lunettes, on ne peut pas le taper.
Oui, c'est vrai, c'est une bonne excuse. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et surtout sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient lundi dès 16h avec Jean-Luc Lemoine et toute l'équipe. Et surtout trois nouveaux personnages qui eux aussi sont montés sur le ring. Le catcheur devenu acteur, Lino Ventura. L'écrivain Jack London qui a fait de la boxe et en a mis aussi dans ses écrits.
Et moi, je vous dresse le portrait du plus boxeur des ex-premiers ministres. Non, ce n'est pas Jean-Pierre Raffarin, mais bien Édouard Philippe.
Ah, ça c'est sûr qu'il a pris des coups, mais enfin, il en a donné aussi. Alors, à lundi les amis, bon week-end à tous.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.